Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Eh bien, tout d'abord, bonjour. Bonjour si vous arrivez sur les ondes de votre radio, de votre radio présence, et bonjour de toute façon parce que j'arrive et donc je vous dis bonjour. Pour continuer cette chronique sur Sainte Mariam Bawardi, j'ai pensé commencer par l'un de ses poèmes. J'ai voulu commencer par ce poème pour deux raisons. La première, parce qu'il dit l'importance qu'avait pour cette Mariam Bawardi le fait de communier, d'une part, et d'autre part, parce que on peut passer par des moments difficiles. Et donc, ce poème dans la première partie, décrit des moments difficiles, décrit ensuite, en deuxième partie, des moments beaucoup plus faciles, la rédemption, la résurrection, la libération, hein, la joie après la tristesse, hein, la présence après le manque, voilà. Et donc j'ai eu envie de commencer par cela. Tout au long de ces chroniques sur cette Mariam Bawardi, peut-être nous pourrions voir ensemble comment concrétiser dans notre vie quotidienne les leçons qu'elle a apprises. Et tous les faits extraordinaires de sa vie sont comme des signes pour attirer l'attention, non pas sur les faits extraordinaires eux-mêmes, mais sur les enseignements qu'elle nous a laissés, sur l'exemple qu'elle nous a donné, que nous pouvons reprendre à notre compte, alors même que nous ne vivons pas cloîtrés, que nous ne sommes pas religieuses, nous ne sommes ni moines ni nonnes, nous sommes pour la plupart d'entre nous des laïcs qui menons une vie quotidienne dans un appartement ou une maison dont nous sommes soit locataires, soit propriétaires, locataires pour la plupart d'entre nous, il faut bien le dire. Et comment quel usage on peut faire de tout cela, voilà. Donc, alors on le verra dans certains textes sur la souffrance, par exemple. Hein, la souffrance n'étant pas un but, évidemment. Hein, bon, mais enfin, voilà. Donc, le cantique du désert et de la rosée pour commencer la chronique de cette semaine. Me voyant comme une terre stérile, j'ai crié vers le Seigneur. Et je lui disais, Seigneur, ma terre est sèche et brûlée. Envoyez-lui votre rosée. Ma chair tombe en pourriture, mes pieds ne peuvent plus me porter, ni mes mains se remuer. Mes nerfs sont tout crispés, mes os se sont desséchés, la moelle de mes os est comme une fumée pourrie. Les cheveux de ma tête se sont durcis. Ils sont tout droits et me piquent comme des aiguilles. Mes oreilles sont fermées et si dures que je ne puis entendre. Il sort du feu de mes yeux qui ne voient plus la lumière. Mon nez est tout serré. Ma langue est attachée à mon palais et ne peut plus prononcer une parole pour crier vers vous. Mes dents sont si serrées que l'air ne peut plus passer et que je vais mourir. Mes lèvres sont tellement desséchées que je ne puis plus les remuer pour vous appeler à mon secours. Seigneur, envoyez votre rosée à cette terre stérile et elle reprendra vie. Après la Sainte Communion, Jésus a visité sa terre et j'ai chanté. Le Seigneur a visité sa terre et de sèche et stérile qu'elle était, elle est devenue humide et fertile en sa présence. La rosée du Seigneur est tombée et l'herbe et la verdure ont poussé. L'arbre contre lequel j'étais appuyé est devenu doux comme la palme. Les forces me sont revenues, mes mains et mes pieds pourraient me porter. Ma chair est devenue comme celle d'un enfant. Mes nerfs sont devenus flexibles. Mes os se sont fortifiés. La moelle de mes os est devenue douce comme une pâte. Mes cheveux se sont ramollis et sont retombés sur ma tête. Mes oreilles se sont ouvertes pour entendre les douces paroles du Seigneur. Ma langue s'est déliée pour chanter ses louanges. Une douce rosée a rafraîchi ma bouche. Mes dents se sont desserrées et ont laissé passer l'air pour respirer à l'aise. Mes lèvres, qui s'étaient desséchées, sont devenues tendres pour chanter un cantique d'action de grâce au Seigneur. Mon nez s'est ouvert et a respiré l'odeur suave du bien-aimé. Tout mon corps s'est reposé et fortifié. Voilà donc pour commencer la chronique de cette semaine. Nous nous étions quittés la semaine dernière sur Mariam qui s'était confessée à Sainte Catherine d'Alexandrie auprès d'un prêtre franciscain qui lui avait raconté l'histoire d'une jeune fille qui s'était enfuie de chez elle. Mariam avait bien reconnu là sa propre histoire, mais sur les conseils de la Sainte Vierge, elle n'a rien dit au prêtre. Hein. Il s'agissait pour elle de ne pas se faire reconnaître, n'est-ce pas ? Donc voilà, ce prêtre franciscain, bien écoutez, il va lui trouver une famille où elle pourra travailler. Hein, il sera très très bien. Alors en fait, elle s'apercevra que ce sont des cousins éloignés, mais qui ne la connaissent pas, et voilà, donc elle peut garder l'anonymat, ce qui est exactement ce qu'il fallait. Alors on la met à la cuisine, et puis là, voilà, elle s'occupe de la cuisine, elle s'occupe des enfants, elle fait tout ce qu'elle a à faire, et elle est très très bien traitée, elle est vraiment très très bien traitée, elle est tellement choyée, qu'elle se demande comment elle pourra réaliser sa vocation, hein. Là vraiment, c'est trop beau. Voilà, elle a une vocation, elle doit réaliser sa vocation, et là elle est tellement bien traitée que elle voit pas trop comment ça sera faisable. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle quitte cette famille, et puis elle se met au service d'une autre famille. Voilà. Elle y restera 6 mois. Hein, voilà, elle cherche vraiment à rester inconnue, et puis elle vit en pauvre, il faut bien le dire. Elle a un seul habit et son salaire, eh bien écoutez, elle le distribue aux malheureux, voilà. Elle le donne aux uns, elle le donne aux autres, là, les gens dans le besoin. Hein, elle ne garde pour elle que quelques piastres, voilà, pour entretenir l'huile, de la veilleuse, hein, qui brûle jour et nuit devant une icône de la Vierge. Voilà, elle garde les sous juste pour acheter cette huile. Voilà. Hein. Et ses loisirs, elle les consacre aux moins fortunés. Hein, voilà. Et puis, elle avance comme ça vers sa vocation. Elle quitte une riche personne d'Alexandrie là pour se dévouer au service d'une famille que la maladie, il faut bien le dire, a réduite à la misère. Hein. Alors elle renouvelle les grabats, elle trouve le moyen de leur procurer tous les soins possibles. Elle se fait même mendiante, hein, pour leur acheter des vivres et des vêtements. Elle vend le peu qui lui reste. Une chose une autre, hein, au bout de 5 semaines, la famille en question, elle est rétablie. Et voilà. Et alors Mariam, bien qu'on insiste, elle quitte cette famille pour aller exercer ailleurs son service d'aide, de soutien, de charité, de service auprès des plus démunis, puisque cette famille s'est rétablie. Ouais, elle va voir ailleurs, quoi. Hein. Elle reprend l'envie comme ça de revoir son frère Boulos. Elle a vraiment, il lui manque, c'est sa seule famille en fait, hein, et elle a quitté à l'âge de 3 ans, hein, quand elle a perdu ses parents, et elle a vraiment envie de le revoir. Elle a besoin de le revoir. Alors elle prend un bateau à Alexandrie pour aller à Saint-Jean-d'Acre. Hein, on se dit que de là, elle rejoindra Tarchia, mais voilà, il y a une tempête terrible. Et le bateau sur lequel elle est, eh bien, là, il est envoyé sur les récifs de Jaffa. Il n'y a pas d'autre solution. Hein, ils sont détournés, ils vont à Jaffa. Et alors, à Jaffa, qu'est-ce qui se passe ? Mariam, elle se met à nouveau au service de, d'une famille, là, pendant quelques jours, parce qu'elle veut aller plus loin, elle désire monter à Jérusalem. Et alors là, elle profite, bah écoutez, d'une caravane de pèlerins pour aller à Jérusalem. Et il y a un prêtre qui lui trouve une place dans une excellente famille. Voilà. Et puis bon, en fait, elle a comme ça 7 années de d'aventure, hein, avant d'entrer au couvent. Hein, parce qu'elle fera plusieurs fois la montée à Jérusalem. Et en fait, on ne sait pas exactement, parce qu'elle prononcera devant sa sépulcre un vœu de virginité. On ne sait pas exactement à quel moment. Mais on connaît un peu les circonstances de ce vœu. Voilà, on connaît un peu les circonstances de ce vœu. Voilà qu'un jour, elle est dans les rues de Jérusalem, et il y a un jeune homme qui l'accoste, mais nous en parlerons la semaine prochaine. Nous en parlerons la semaine prochaine. La vie de Sainte Mariam Bawardi est une telle merveille que... Oh, voilà, il y a... Voilà... J'ai tourné mon regard vers mon père et il m'a regardé et ce regard m'a guéri. La moelle de mes os qui était aigrie est devenue douce comme le sucre. Mes os se sont raffermis et sont devenus douces comme si j'avais 15 ans. Ma chair a tressailli d'allégresse et tout mon être aussi. J'ai couru vers mon père et mon roi est venu vers moi et j'étais comme le petit poussin sous l'aile de sa mère. Et je regardais mes ennemis à travers les plumes de l'aile de mon père et mon roi sans rien craindre. J'étais en sûreté. Je suis entré avec le roi et je suis sorti avec le roi. Et mes ennemis, me voyant, étaient dans l'étonnement. Et ils disaient, « Non, ce n'est pas elle, c'est une autre. » Et cependant, oui, c'est moi, parce que le Très-Haut m'a prise sous les ailes de sa protection et je suis entré avec le roi et je suis sorti avec le roi. Et en me voyant, mes ennemis étaient saisis et les genoux ployés sous eux et ils tombaient et je marchais à leur tête. Oh, il m'est impossible de le dire comme je le sens.